Bonjour à toutes et à tous, à chacun et chacune. J'ai le grand plaisir de recevoir aujourd'hui les nouveaux présidents du conseil départemental, Claude Terouinard du groupe Les Républicains, doyen de l'Assemblée départementale. Alors Claude Terouinard, nous avions pris rendez-vous ensemble au lendemain de votre élection le 17 octobre dernier. Trois jours plus tard, donc le 20 octobre, un événement s'est produit. 16 membres du conseil départemental ont engagé une procédure en destitution, on va dire. On va parvenir sur cet événement, juste pour savoir votre sentiment quoi, sur cette affaire. On ne va pas parler, évidemment, de la procédure qui est en cours.
Alors d'abord, je dois être le doyen des présidents de conseils généraux de France.
Ah.
Bon. Comme quoi leur loi conserve vigoureusement ses meilleurs éléments durant longtemps. Non, moi, ce qui m'intéresse, c'est les 16 qui ont voté pour moi. Ce n'est pas les 16 qui ont déposé un recours. Oh, ils font un recours, ça existe, ça fait partie de la procédure électorale. Il y en a peut-être qui se sont ravisés, vous savez, c'est compliqué la politique. Hein. Mais je vais vous dire une chose. Je crois personnellement à l'âme des institutions. Et je pense qu'à un moment donné, il y a des choses qui se passent, et ils s'en passent en France, où une personne qu'on n'attendait pas arrive subitement pour amener des idées nouvelles. Les institutions ont-elles une âme ? Je pense que oui.
Alors, la commission permanente du Conseil départemental s'est réunie il y a quelques jours pour examiner un certain nombre de délibérations, 45 je crois. Donc ça s'est plutôt bien passé.
Ben, ça veut dire qu'on a des conseillers départementaux qui sont des hommes responsables et des femmes responsables. Et que quand il s'agit des intérêts de leurs concitoyens, ils savent mettre dans leur poche et par-dessus leur mouchoir bon, les petites choses qui les séparent. Bon. Mais vous savez, la politique, c'est compliqué. C'est pas fait pour l'étendre. Mais quand quelqu'un sait quel est son devoir, il le fait passer avant tout.
Oui.
Et c'est ce qu'ils ont fait. Et je peux vous dire une chose, que je les en remercie. Les citoyens de Eure-et-Loir ont élu des gens responsables et qui sont pas désespérés.
Vous êtes serein.
Ah oui, comme l'oiseau sur la branche. Bien sûr. Vous savez, à mon âge, on ne peut être que serein. Hein. Je vais pas changer à 80 ans, comme aurait dit le général, de conviction. Parfois, on me reproche d'être un maire rural, bien sûr, et j'en suis fier. J'en suis fier. L'Eure-et-Loir est une terre rurale. Elle l'a été il y a 50 ans, il y avait plus de ruraux en Eure-et-Loir que de citadins. Oh, le monde a changé. Mais c'est les mêmes. Oh, ils aiment pas les mêmes choses, ils aiment pas. Mais ils reviennent progressivement, vous inquiétez pas. C'est la vie, ça va, ça vient. Le bonheur, on dit toujours qu'il est dans le pré. Hein? On n'a jamais dit qu'il était place des Éparts.
Alors, vous êtes un rural, c'est vrai, mais un rural qui tout de même a un sacré parcours, puisque peut-être que les gens ne le savent pas. Bon, je voudrais qu'on fasse un petit portrait de vous quand même, avant de parler du département, de vos priorités, des grands axes de votre politique. Vous êtes quelqu'un, vous êtes l'exemple parfait de la méritocratie républicaine.
Ah, c'est gentil ce que vous dites et c'est vrai. En fait, j'avais des merveilleux grands-parents qui m'ont élevé, parce que mes parents ont divorcé en 45, et nous ont abandonné, ma sœur et moi, et donc on a été recueillis par nos grands-parents. Et ma grand-mère, que j'adore et que j'adorais, bon, avait hérité d'une maison à Châtillon, parce que sa mère avait été tuée en 44 lors de la libération du village. Donc je suis parti en 45 à Châtillon, et puis il y a un merveilleux maître d'école qui est arrivé... j'ai quitté Coudreau-Perche où on allait plus en classe promenade qu'à l'école parce que j'avais quatre cousins germains dont les parents étaient déportés à Brunwald et à Ravensbrück et ils sont revenus tous les deux. Donc on était six enfants chez mon grand-père, ma petite sœur avec moi et mes quatre cousins. Et on allait à Coudray à l'école. Bon, on devait représenter à peu près le quart de l'effectif à l'époque. Et puis, je suis parti à Châtillon, et là, j'ai trouvé ce maître d'école qui m'a fait passer le concours des bourses nationales. Et puis, je suis rentré au collège de Châtenin, j'ai passé l'entrée en sixième, et j'ai fait toutes mes études au vieux collège de Châtenin, de la rue Touffert. Hein. Alors ensuite, je suis devenu pion d'internat. J'ai commencé à Châtenin, pour rester près d'une copine, bien sûr. J'ai changé depuis... Non, mais une copine, hein, je précise. Et alors, et ça se passe en 56, et là, je suis nommé au lycée Marceau. Et je vais rester 3 mois à même d'internat au lycée Marceau, parce qu'il y a les rappelés en Algérie. Et la grande académie de Paris, à l'époque, qui allait de Sainte-Médéoulde à Saint-Aignan, avait entre autres les lycées parisiens, et donc qui étaient décapités parce que les gars avaient été rappelés, il y avait beaucoup de vieux pions. Et donc je suis parti au lycée Lacanal à Sceaux. Je suis devenu responsable national des maîtres d'internat de France. Ouais. Et puis, j'ai fait une licence de droit public. J'ai fait un diplôme d'études supérieures, avec mention bien, s'il vous plaît. Et puis, j'ai fait Sciences Po, Paris. Ce qui m'a évité.
Rien que ça.
Ce qui m'a évité d'aller en Algérie, parce que j'étais sursitaire, comme c'était assimilé à la préparation à l'ENA. Et donc, vous voyez, je suis parti de rien et je suis arrivé à être président du conseil départemental. Bon parcours. Hein. Merci à ceux qui y ont contribué.
J'ouvre une petite parenthèse. Je sais l'admiration que vous portez au général de Gaulle. Est-ce que vous avez été un gaulliste de 58, un jeune homme ?
Et j'étais, à l'époque syndicaliste, disons que j'avais pas assez compris. Mais l'homme auquel je porte une vénération, c'est Charles Pasqua.
Oui.
J'adore cet homme, mais bon.
Il est venu déjà.
Châtillon. Et je dois vous dire qu'à l'heure actuelle, où j'ai besoin de gens qui me conseillent, etc., j'ai beaucoup de préfets, d'anciens préfets, nommés par Charles Pasqua, qui m'aident beaucoup. Et de grâce à ça, le département tourne bien, les conseils sont bons. C'est une leçon, ça aussi. Cet homme avait un tel charisme que parler ensemble, c'est parler de lui, se souvenir de lui.
C'est très beau ce que vous venez de dire. Là.
Et ben, vous savez, c'est avec du vécu qu'on fait du vivant. Et Charles Pasqua, que moi je connaissais bien, était un homme de cœur, un homme généreux, un homme sensible et qui aimait la France.
Mais dans quelles circonstances l'avez-vous connu, finalement ?
Alors, je l'avais connu... On avait décidé de mettre la main, nous les ruraux, sur l'AMF. Et puis, à l'époque, il était président du Sénat, je me disais, il doit avoir des fichiers, pour qu'on ait des voix. Et bon, puis je l'ai connu à ce moment-là avec Maurice Leroy, qui était chez lui à l'époque. Et puis, c'est par Maurice que j'avais rencontré. Ouais. Mais je ne regrette pas.
Et d'ailleurs, vous avez participé à l'aventure du RPF qui a été très courte.
J'ai même été près de lui, passé toute la nuit avec lui et ma femme et la sienne, dans la soirée où les villiéristes étaient en bas et nous on était en haut et ça ne se parlait pas beaucoup. Ça me rappelle quelque chose, tu vois.
Alors parlons du département.
Claude. Le département.
Alors le département, je sais que c'est un échelon qui vous est vraiment... très cher.
Mais oui, mais le département, c'est la proximité. Bon, et qu'on le veuille ou non avec la commune, c'est ce que les gens ont plus près d'eux. Bon. C'est, moi, je crois, personnellement, j'ai rencontré François Bonneau, nous avons longuement discuté, il est encore ce matin ici. Bon, il se trouve qu'on a un ami commun très cher. Ça nous rapproche l'un de l'autre. Bon. Et. Il ne faut pas qu'on agite, nous, les départements, nous, les régions. On n'a plus moyen de faire tout ça. Tout à l'heure, j'ai discuté avec un représentant de la préfecture, j'ai vu Madame la préfète. Il faut qu'on se mette ensemble autour du développement des territoires en difficulté. L'Eure-et-Loire ne sera pas durablement prospère si tous ces territoires ne sont pas prospères. Il ne faut pas qu'on laisse se développer une fracture territoriale trop importante dans notre département. Ça touche aussi bien les quartiers difficiles de Dreux que les communes rurales de mon secteur. Bon. Mais il faut bien reconnaître que le monde rural, qui était lié au monde agricole, qu'on avait décidé de considérer comme un monde fini...
Vous dites qu'il a failli mourir.
Il a failli mourir. Mais il y a une très belle phrase de Jacques Elias, il dit c'est comme les sources qui renaissent d'un seul coup. La vie repart, c'est ça. Il y a là une petite graine que vous avez semée il y a 20 ans. Hop ! Qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est la graine qui était là. Hein ? Ils ne savent pas qu'il y a des graines. Il y a toujours des graines dans le milieu rural qui traînent et qui sont prêtes à vigoureusement, n'est-ce pas, le chêne, etc. Et puis c'est reparti. Et puis, écoutez, le monde rural, c'est un monde paisible, c'est un monde tranquille. On voit avec Airbnb, moi j'ai nous avons trois gîtes avec ma fille, c'est plein tous les samedis. D'un seul coup, vous avez un appel de New York à Châtillon-du-Noix. Mais c'est invraisemblable. On est devenu une commune connue dans le monde entier, grâce à Airbnb. Alors c'est sûr que dans les villes, parfois, ça fait peut-être un peu trop d'appels d'air et que ça crée des difficultés. Mais dans les campagnes, c'est un outil.
C'est une chance.
Ah oui, c'est une chance, évidemment. Mais la mondialisation, et notamment la société numérique, est une chance pour le monde rural. Je voyais hier dans l'Écho, enfin des articles favorables à la télémédecine. Vite, vite, vite. On n'exercera pas demain la médecine comme on l'exerce aujourd'hui. Les infirmières, les pharmaciens sont des gens extrêmement compétents. Moi, je vais vous dire une chose. J'ai vu, par exemple, la pharmacienne à Courtanin qui a dit à ma épouse qui faisait de l'anémie, il ne faut pas rester comme ça. Il faut aller à l'hôpital. La pharmacienne lui a dit ça. Ça veut dire qu'il y a aujourd'hui... une autre façon d'exercer la médecine. Bon, on ne verra pas des médecins tout seuls dans les campagnes qui se déplacent à 4h du matin pour faire un accouchement.
Il faut s'habituer à la désertification médicale.
Non, c'est pas la désertification médicale. On travaille aujourd'hui en synergie les uns avec les autres. Bon, comment va-t-on dans une EHPAD où les gens ont quand même 87, 88, voire 90 ans? Vous savez, EHPAD, ça veut dire personne âgée dépendante. Bon. Est-ce qu'on peut pas faire ces examens à distance au lieu de les trimballer ces pauvres anciens qui souffrent, etc. Il faut qu'on adapte les outils qui sont à notre disposition. Et la ruralité peut retrouver grâce à ça un autre modèle de développement. On ne développera pas Châtillon comme on développe Chartres. Faut pas. Mais, les rapports entre Châtillon et Chartres sont évidemment liés. Pourquoi? Chartres, et c'est normal, qui est une ville dynamique, attire les emplois et les richesses. Mais la population, vous la retrouvez dispersée sur le territoire. Or, une commune, tout le monde sait que les maires le savent tous, que ça coûte, un enfant, ça coûte entre 1500 et 2000 euros. Quand vous êtes dans une commune de 100 habitants, qui vous arrive, comme à Bois-Gasson, 12 gosses à 2000 euros, que vous savez que le budget c'est 60 000 euros, ben c'est pas supportable. Donc il faut que les communes se groupent, etc. Mais donc il faut que sur ces territoires, il y ait des vraies relations ville-campagne. Et on ne peut pas accepter qu'il y ait une petite forme d'ostracisme vis-à-vis de la ville de Chartres. C'est ce qui m'est reproché. Moi, je suis fier d'avoir été aux côtés de ce qu'on appelle les Chartrains. Je vous signale que chez les Chartrains, il n'y a pas que des Chartrains. Il y a 6 Chartrains sur 11. Bon. Mais le rapport ville-campagne, il est indispensable. On en parlait encore tout à l'heure. L'argent qu'on gagne dans les villes, plaçons-en un peu dans les campagnes. On n'a aucun intérêt à multiplier la pauvreté. Oui. Aucun intérêt. Il faut que les territoires travaillent en synergie avec des chances égales pour tous les habitants. Ça sera long, ça sera difficile, mais on y arrivera. Il faut qu'on accompagne l'État, il faut qu'on accompagne la région pour développer des équipements qui amènent la jeune population. Car ce dont souffre le monde rural, c'est un problème de démographie. La ruralité aujourd'hui, elle est âgée. Vous prenez l'exemple du Perche, vous avez dans certaines communes 40% de personnes qui ont plus de 60 ans. Et vous avez des communes de plus de 1000 habitants qui ont 3 naissances. Vous ne pouvez pas vivre comme ça. Ce n'est pas possible.
Comment faire revenir les gens?
Alors, il faut, à mon avis, favoriser la restructuration des centres-bourgs, les rendre attractifs, avoir des maisons qui correspondent au goût des jeunes et amener cette jeune population. Il y avait un dispositif qui s'appelait le pass foncier, qui était rudement bien. Ça s'adressait à des gens, des primo-accédants, c'est-à-dire des gens qui avaient entre 25 et 35 ans. Je m'excuse, mais c'est l'âge où on fait des gosses en général. Hein. Des fois, on en fait plus tard, des fois, on en fait trop tôt, mais c'est l'âge où on est producteur. Bon. Moi, ça m'a amené à Châtillon, ça fait passer l'effectif scolaire de 65 à 98 élèves. Bon. Eh bien, j'ai une quatrième classe, et ça, aujourd'hui, ça fait un groupe scolaire, oui, qui tient la route. Alors, l'État l'a supprimé, bon, c'est une connerie, bon, parce qu'il paraît que ça coûtait 60 000 euros par pavillon. Mais un monde qui meurt, ça coûte plus de 60 000 euros. Mettons un peu d'humanité dans nos réflexions, parce qu'aujourd'hui, on a un peu trop tendance à faire confiance à la calculette. À croire qu'ils n'ont plus de cerveau, ils ont une calculette à la place de la tête. Bon, c'est pas très important. Non, il faut, encore une fois, que notre département soit exemplaire en matière d'équilibre entre les territoires. Mais, vous savez, quand on discute et qu'on est convaincu, on fait partager nos opinions. Moi, j'ai eu l'occasion de discuter de ces problèmes avec Jean-Pierre Gorge. Vous avez, par exemple, un centre d'appel à Châtillon, il y a 50 personnes. Bon. Est-ce que vous croyez que 300 emplois dans un centre d'appel à Chartres, c'est fondamental? Non. Par contre, 6 centres d'appel dans 6 communes différentes de 50 habitants, je peux vous dire que ça change la vie du chef-lieu de canton. Mmh. Eh ben, moi, j'ai rencontré, au cours de mes discussions avec Jean-Pierre Gorge, parce que c'est lui qui est venu me solliciter au départ, j'ai rencontré une grande compréhension à l'égard des problèmes de la ruralité.
Ça vous a étonné? Non.
Non, parce que j'avais lu son bouquin. Mmh. Bon. Et je l'avais lu et puis relu. Non, ça ne m'a pas étonné, parce que d'abord, Chartres, l'agglo, il n'y a pas que des communes périphériques, hein. Il y a aussi des communes rurales. Et c'est des communes qui viennent spontanément. Ce n'est pas lui qui va les demander. Parce qu'ils ont trouvé un équilibre entre... Ils y ont vu leur intérêt. Ils y ont vu leur intérêt. Parce que celui qui habite à 10 km, je ne vais pas me faire que des amis encore en disant ça, celui qui habite à 10 km, celui qui a 25 km, il a les mêmes besoins. Il a les mêmes besoins. Bon, alors après, il y a le rural profond dont je suis issu. Mais le rural profond, moi, je suis partisan. Enfin, ça bon, c'est pas le problème du département. Mais il faut que les communes réfléchissent à trouver des modes de regroupement. Parce que une commune de 100 habitants, aujourd'hui, elle a beaucoup de difficultés à vivre. Hein, surtout, encore une fois, qu'il arrive ces populations avec des jeunes enfants. Alors, le département, ben, son rôle, c'est d'aider les communes à l'intérieur de dispositifs, les communes, les communautés de communes, à l'intérieur des dispositifs mis en place par l'État et la région, et qu'on travaille ensemble. Hein, qu'on n'essaie pas de dire « Ah, ça, c'est le drapeau de la région. Ah, c'est le drapeau. » Non, ça, c'est fini. Ça. C'est les gens, j'en ai rien à foutre. Vous savez, moi, je dis toujours, une route, elle est communale, elle est départementale, elle est nationale. Le gars qui habite dans un mois à Châtillon, qui va bosser à Bonneval, il n'en a rien à foutre de la propriété. Ce qu'il veut, c'est que la route soit déneigée pour aller de son bureau à son boulot. Voilà. Eh bien, parce que ça, c'est le droit à la mobilité. Donc, il faut aussi là qu'on change nos façons de voir. Et on va y arriver. C'est toute une... Moi, la ruralité, elle m'a appris l'humilité, la modestie, peu de moyens et faire beaucoup avec peu.
Ça va. Vous êtes d'une grande utilité compte tenu des dotations de l'État vers les collectivités locales, mais aussi donc vers le département. C'est un souci, ça.
Bien entendu que c'est un souci. Et puis, il faut dire une chose. Bon, l'Eure-et-Loir est un département, c'est pas le plus à plaindre. Hein, je crois qu'on doit être par tête d'habitant, on tire par exemple le RSA, on doit être à 110 euros, quelque chose comme ça, de mémoire. Hein, oui, 40 millions. Ça. Vous avez des départements comme le Nord, ils sont à 250, 280, les Seine-Saint-Denis, etc. Non, on a un département qui est relativement équilibré. On a quand même ce qu'on appelle les droits de mutation. Ça se vend pas mal quand même, le logement dans le nord du département. Dans le sud, non. Dans le sud, il n'y a rien à espérer. Enfin, il n'y a rien à espérer, si. Mais ça viendra plus tard. Ouais. Plus tard. Et puis, c'est des sujets qui sont passionnants. En fait, il faut qu'on fasse rentrer nos territoires dans le 21e siècle. On a parlé tout à l'heure du numérique. On a parlé de la restructuration des centres-bourgs. On parlait tout à l'heure avec notre ami Jacques Lemar des zones d'activité avec des friches industrielles, etc. Comment on peut reconquérir tous ces tissus, hein, au lieu d'aller piquer de la terre l'artificialisation des sols. Le meilleur moyen, c'est de lutter contre cette tendance dénoncée à juste titre. C'est précisément de récupérer des terrains, mais ça coûte cher. Ça coûte cher. Ben, c'est un effort qu'on doit faire ensemble, quoi.
Alors, tout à l'heure, Claude, vous parliez des centres-bourgs, mais on sait que les services publics disparaissent de plus en plus, des petits villages, mais pas que des petits villages. On parle notamment de la fermeture de la maternité à Châteaudun. Ça, ce sont des choses inquiétantes, ce ne sont pas des choses qui vont faire revenir les gens vers nous, vers l'Eure-et-Loir, vers les petits villages ou vers les sous-préfectures.
Bon, ça dit, moi, je ne connais pas assez le sujet de la maternité de Châteaudun. Je crois que le responsable a des problèmes de santé, donc il faut les remplacer, etc. Il y a beaucoup de discussions sur le problème des maternités. Bon, en montagne, ça me paraît oui, un vrai problème. Bon. Les gens exigent aujourd'hui une sécurité de plus en plus grande. Peut-on avoir cette sécurité totale dans tous les établissements? Je ne suis pas un spécialiste pour me prononcer. Mais les gens qui font ça, ce n'est pas uniquement pour faire des économies, j'espère. Hein. Et puis, bon, il vaut peut-être mieux avoir à Chartres ou à Dreux, les deux principales villes, des équipements qui sont assurés pour tout le monde. Bon. On n'en est plus à l'époque où on a couché à la maison. Hein. Je crois qu'il faut vivre avec son temps. On fait bien 30 km pour aller aux eaux de Beauval, 100 km ou 150. On peut en faire 30 pour aller à la maternité. Hein.
Parlons de l'action sociale, parce que c'est évidemment une des missions principales d'un département. C'est un budget conséquent. Vous envisagez dans le domaine de l'action sociale?
Dans le domaine de l'action sociale, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'abord essayer de voir un peu, on va faire un audit, on va essayer d'apprendre, avec un œil neuf. Je ne sais pas si c'est si facile que ça. Dans l'ensemble, je pense que le personnel est dévoué, hein, parce que c'est pas simple d'être un assistante, de travailler dans ces services, que ce soit dans les hôpitaux, vous les connaissez bien, toutes ces maisons. Faut tirer un grand coup de chapeau aux gens qui y bossent. Bon, il faut leur donner un peu de moyens, mais on n'en a pas beaucoup. C'est ça le problème. Et là, vous soulevez un problème majeur, c'est que l'État a mis en place des allocations universelles, mais qui sont prises en compte, par les départements. De mémoire, le RSA, ça doit représenter nationalement un peu plus de 10 milliards. Eh ben, l'État nous a planté de 4 milliards et demi. Bon. Alors moi, ce que je crains, vous voyez, c'est ça que je reproche le plus à cette politique de gribouille, c'est que tout ce qu'on met dans le social en plus, c'est ce qu'on a en moins pour éviter la fracture territoriale. Parce que le département a aussi un rôle de solidarité envers les territoires. Et comme les moyens sont absorbés par les coûts des allocations individuelles de solidarité, qui fait les frais de ça? C'est le budget des routes, c'est les aides aux communes. On essaie de les sanctuariser, mais c'est pas simple, l'équilibre. Et puis on a une attitude, qu'Albéric a institutionnalisé et qu'il faut garder, c'est ne pas augmenter les impôts. Parce que les impôts, les gens qui les payent ont de moins en moins aussi de moyens, faut penser à eux. Hein. Bon, alors on espère quelques recettes de poche. On espère qu'ils s'amélioreront grâce à l'immobilier. C'est pour ça qu'il ne faut pas arrêter de percevoir des droits de mutation. Sinon, ça serait catastrophique pour nous.
Je voudrais qu'on parle du tourisme. Vous avez été président du conseil départemental du tourisme. Et puis, vous le disiez, votre fille a trois gîtes. C'est une question qui vous intéresse beaucoup. Le développement touristique va se poursuivre. C'est une source de développement aussi économique.
Moi, j'ai la conviction qu'il faut, dans nos campagnes, parce que pour moi, il y a deux formes de tourisme. Il y a le tourisme urbain, où Chartres fait un travail assez remarquable, faut le dire. Et d'ailleurs, grâce à ça, on a un parc hôtelier à Chartres qui est de très belle qualité. Hein. Il y a eu des efforts magnifiques qui ont été faits par les hôteliers. Et puis, il y a le tourisme rural. Ces deux tourismes qui sont très différents l'un de l'autre. Bon, ils ont une caractéristique peut-être double. C'est-à-dire, le tourisme, c'est d'abord, quand vous avez des hôtels ou des gîtes, c'est les entreprises. Il ne faut jamais oublier que ce qui fait vivre, c'est le tourisme professionnel. Le tourisme proprement dit, c'est 40%. Hein. Un gîte qui n'aurait pas de tourisme professionnel... par exemple, je vois à la campagne, les entreprises, elles louent très, très fréquemment maintenant des gîtes, parce qu'il n'y a plus d'hôtels. Alors, ça amène un peu de monde, les gars, ils vont au restaurant, ils vont boire un coup, etc. Et puis, ils découvrent une campagne qui n'est pas du tout la campagne qu'ils imaginaient, qu'on présente toujours, la désertification, c'est la longue plainte des campagnes. Arrêtons de présenter la campagne comme un truc qui va mourir. C'est un truc qui est en pleine vie. Il n'y a qu'à regarder nos vieux comme ils sont vigoureux. La preuve.
Il nous reste une minute ou deux. Je voulais juste vous poser une question sur la présidence d'Emmanuel Macron. Je ne vous ai jamais interrogé là-dessus depuis l'élection.
J'ai voté Macron au deuxième tour, comme beaucoup de gens. Bon. Ben, il faut. Je vous disais tout à l'heure, quand elle a besoin d'idées nouvelles, l'institution change de personne. C'est bizarre. Il faut s'interroger sur le destin. C'est comme l'élection des papes. Ouais. Pourquoi celui-là? Pourquoi pas l'autre?
Parce que ça doit venir, c'est ça?
Exactement. Ouais. Et ce garçon... bon, la seule chose que je crains, c'est la dictature de Bercy. C'est ça qu'il faut éviter. Il ne faut pas qu'on ait une réforme fiscale, par exemple, au niveau des collectivités locales, où on coupe le lien entre la commune et l'impôt. C'est capital. Or, si on supprime à terme, par exemple, la taxe d'habitation, quels seront les liens? Bon, c'est important. Moi, je ne suis pas pour aller vers un système allemand où on donne une part d'un grand impôt national type TVA ou... Enfin, peu importe lequel, ou type revenu, l'impôt sur le revenu. Non, non. Il faut garder ce lien. C'est vrai que la taxe d'habitation, elle est très injuste. Il faut le dire. On n'a pas été capable de la réformer. Mais vous savez, y a aussi des ressources entre communes. D'une commune à l'autre, à 5 km de distance, les revenus ne sont pas les mêmes. Hein. C'est bon. Alors, est-ce qu'il ne faudrait pas avoir un peu plus d'égalité, d'équité. L'équité, c'est à situation inégale, avantages inégaux. Donc, on va essayer de mettre en avant l'équité plutôt que l'égalité, parce que l'égalité ne fait qu'enrichir les riches et appauvrir les pauvres.
Claude Terouinard, merci beaucoup et on se donne rendez-vous peut-être au mois de décembre pour savoir davantage.
Voilà, on aura du budget. Oui. Voilà. Merci à vous et bonsoir à tous. Et vive le Rhin-Loire.